Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc ensemble pour la suite du roman de Conan Doyle, Le chien des Baskerville. Le cadavre de Sir Henry Baskerville était devant nous. Comment aurions-nous pu oublier la teinte un peu spéciale, rouille, du costume de tweed qu'il portait le jour où il se rendit à Baker Street? Nous le reconnûmes au moment où l'allumette s'éteignit sous le vent comme l'espoir dans nos cœurs. Holmes gronda. Dans la nuit, je distinguai qu'il était livide. La brute! Oh, la brute! M'exclamai-je en me tordant les mains. « Oh, Holmes, jamais je ne me pardonnerai de l'avoir abandonné à son destin. » Dire que nous avons entendu ses cris, mais quel cri, Seigneur, et que nous avons été incapables de le sauver. Où est cette brute de chien qui l'a fait mourir? Il doit être tapi derrière quelque rocher. Et Stapleton, où est-il? Il répondra de cette mort.
« Oh oui, » répondit Holmes. « J'y veillerai. L'oncle et le neveu ont été assassinés, l'un épouvanté jusqu'à en mourir par la vue de cet animal sauvage, l'autre trouvant la mort pour essayer de lui échapper. Mais il nous reste à prouver la relation entre l'homme et le chien. Mais en dehors de ce que nous avons entendu, nous ne pouvons même pas jurer de l'existence de la bête puisque Sir Henry est mort, évidemment, d'une chute. Tout de même, Stapleton a beau être astucieux, il sera à ma merci avant qu'un autre jour se soit écoulé. Nous nous tenions de chaque côté du cadavre, complètement bouleversés par la soudaineté de ce désastre irrévocable qui était la piteuse conclusion de tous nos efforts. La lune se leva. Nous grimpâmes alors sur l'escarpement d'où était tombé notre pauvre ami. De sa crête, nous inspectâmes la lande, mi-argent, mi-plomb. Au loin, à plusieurs kilomètres de là, dans la direction de Grimpen, brillait une petite lumière jaune immobile. Elle ne pouvait provenir que de l'habitation isolée des Stapleton. Je brandis mon poing et le maudis. Ensuite, nous redescendîmes ensemble de l'escarpement et nous revînmes auprès du cadavre. L'affreux spectacle de ses membres brisés me fit mal. Des larmes me vinrent aux yeux. Il faut que nous allions chercher du secours, Holmes. Nous ne pouvons pas le transporter ainsi jusqu'au manoir, grand Dieu. Mais êtes-vous devenu fou? Il avait poussé une exclamation en se penchant au-dessus du corps. Et à présent, il dansait, riait, me serrait la main à les briser. Était-ce là mon ami si maître de lui, si austère? La colère l'avait rendu fou, sûrement. Une barbe, l'homme a une barbe. Une barbe. Mais ce n'est pas le baronnet, Eric. C'est, est-ce bien, c'est mon voisin, le forçat. Fébrilement, nous retournâmes le cadavre. Une barbe hirsute pointa vers la lune claire et froide. Aucun doute. Ce front sourcilleux, ces yeux d'animal sauvage, ce faciès bestial, c'était bien la tête que j'avais vue éclairée par la lueur de la bougie entre les rochers, la tête de Selden, le criminel évadé. Alors tout devint clair dans mon esprit. Je me rappelais que le baronnet m'avait dit qu'il avait donné à Barrymore sa vieille garde-robe. Barrymore en avait fait cadeau à Selden pour qu'il pût fuir. Les chaussures, la chemise, le chapeau appartenaient à Sir Henry. Certes, le drame demeurait terrible. Mais du moins cet homme avait mérité la mort selon les lois de son pays.
J'expliquai le tout à Holmes. Mon cœur débordait de gratitude et de joie.
Dans ce cas, c'est à cause des vêtements qu'il est mort, me répondit-il. Il est évident que le chien a été mis sur la piste par un objet quelconque appartenant à Sir Henry.
La chaussure qui lui a été volée à l'hôtel, selon toute probabilité.
Il y a pourtant un dernier mystère. Comment, dans la nuit, Selden a-t-il su que le chien était lancé à ses trousses?
Ben, il l'a entendu.
Le fait d'entendre un chien sur la lande n'aurait pas poussé un homme endurci comme ce forçat au paroxysme de la terreur.
Songez qu'en appelant ainsi au secours, il risquait d'être repris, et d'après ses cris, il a dû courir longtemps après avoir su que le chien était sur sa trace.
Mais comment l'a-t-il su?
Et un plus grand mystère existe selon moi, Holmes. Pourquoi ce chien, en supposant que toutes nos hypothèses soient fondées...
Je ne suppose pas, Watson.
Bon, alors pourquoi donc ce chien a-t-il été lâché cette nuit?
Je présume qu'il n'est pas constamment en liberté sur la lande. Stapleton ne l'aurait pas lâché s'il n'avait pas eu motif de croire que Sir Henry allait venir par ici.
Des deux mystères, le mien est le plus formidable, car je pense que d'ici très peu de temps, le vôtre nous sera expliqué, tandis que le mien demeurera éternellement un mystère.
La question qui se pose maintenant est celle-ci. Qu'allons-nous faire du cadavre?
Nous ne pouvons pas l'abandonner en pâture aux renards et aux corbeaux.
Oh, nous pourrions le transporter dans l'une de ces cabanes jusqu'à ce que nous ayons alerté la police.
Parfaitement.
Nous serons capables de le porter jusque-là.
Oh, Watson, attention, qui est-ce? Voici notre homme en personne, merveilleux d'audace. Pas un mot qui puisse lui indiquer nos soupçons. Pas un mot, Watson, sinon tous nos plans sont anéantis.
Un homme avançait en effet vers nous. J'aperçus la lueur rouge de son cigare. La lune l'éclairait. C'était bien l'allure sémillante et désinvolte du naturaliste. Il s'arrêta net quand il nous vit, puis reprit sa marche.
« Comment, docteur Watson, c'est vous? Vous êtes bien le dernier que je me serais attendu à rencontrer sur la lande à 7 heures de la nuit. Mais mon Dieu, qu'est-ce cela? Quelqu'un a-t-il été blessé? Oh, ne me dites pas que c'est notre ami Sir Henry. »
Il s'était précipité sur le cadavre. Je l'entendis aspirer brusquement de l'air. Le cigare lui tomba des doigts.
« Mais qui est-ce ? »
balbutia-t-il.
« C'est Selden, le forçat qui s'était évadé de Princetown. »
Stapleton tourna vers nous un visage hagard. Mais dans un effort de tout son être, il surmonta sa stupéfaction et sa déception. Son regard pénétrant alla de Holmes à moi.
« Mon Dieu, quelle affaire! Comment est-il mort ?»«
Il semble qu'il se soit rompu le cou en tombant de cet escarpement. Mon ami et moi étions en train de nous promener sur la lande quand nous l'avons entendu crier. »«
Oh, j'ai entendu un cri, moi aussi. C'est ce qui m'a poussé dehors. J'étais inquiet au sujet de Sir Henry. » »«
Pourquoi de Sir Henry en particulier ? » ne pus-je m'empêcher de lui demander.
Bah parce que je l'avais invité à venir à Merripit. Comme il tardait, j'étais étonné, et tout naturellement, j'ai commencé à m'alarmer sérieusement quand j'ai entendu des cris sur la lande. À propos... »
Son regard perçant alla de nouveau se poser alternativement sur Holmes et moi.
« Avez-vous entendu autre chose que des cris ?»«
Non, répondit Holmes, pas moi.
Et vous ?»«
Non.
Alors que voulez-vous dire ?»« Oh, vous connaissez les histoires que racontent les paysans d'ici à propos d'un chien fantôme. Il paraît qu'on peut l'entendre la nuit sur la lande.
Je me demandais si ce soir on l'avait entendu.
Oh, je n'ai rien entendu de semblable, dis-je.
Et quelle est votre thèse sur la mort de ce pauvre diable?
Sans aucun doute la peur, le froid qui lui a fait perdre la raison. Il a dû courir dans la lande comme un fou et le hasard a voulu qu'il tombe ici et s'y rompe les os.
« Oh, c'est une thèse très raisonnable, » répondit Stapleton en lâchant un soupir que j'interprétais comme un soulagement. « Que dites-vous, monsieur Sherlock Holmes ?»
Mon ami s'inclina courtoisement.
« Oh, vous avez l'identification facile, » dit-il. « Ah, nous vous attendions depuis l'arrivée du docteur Watson. Vous êtes tombé juste sur cette tragédie. » « Oui, je crois fermement que la thèse de mon ami rend compte des faits. J'emporterai demain vers Londres un souvenir plutôt désagréable. »
« Oh, vous partez demain ?»«
Oui, c'est mon intention. Bon, »« J'espère que votre séjour a permis de résoudre ces énigmes qui nous avaient un peu intrigués. »
Holmes haussa les épaules.
« On ne peut pas toujours gagner ni obtenir le succès qu'on espère, » fit-il. « Un enquêteur a besoin de faits, mais pas de bruit et de légendes. Cette affaire m'a déçu. »
Mon ami parlait avec une négligence apparemment sincère. Stapleton le considéra fixement encore un moment, puis il se tourna vers moi.
« Je vous proposerais bien de transporter ce pauvre diable jusqu'à ma maison, mais ce spectacle épouvanterait tellement ma sœur que j'hésite. Je crois que si nous recouvrions le cadavre, il ne risquerait rien avant le matin. »
Ainsi fut fait. Refusant les offres hospitalières de Stapleton, nous nous mîmes en route, Holmes et moi, vers le manoir de Baskerville. Quand nous nous retournâmes, nous aperçûmes la silhouette du naturaliste se déplacer lentement sur la lande. Derrière lui était figé sur la pente argentée le petit tas qui montrait l'endroit où Selden avait trouvé une mort si horrible.
« Enfin, nous en sommes venus au corps à corps, » murmura Holmes.
« Quel nerf il a, cet homme ! Avez-vous vu comment il a dominé la réaction qui aurait dû le paralyser ? Quand il s'est rendu compte que ce n'était pas la victime qu'il visait qui était tombée dans son guet-apens. Je vous l'ai dit à Londres, Watson, et je vous le redis maintenant, jamais nous n'avons rencontré un adversaire plus digne de croiser notre fer.
Je regrette qu'il vous ait vu.
Bah, je le regrettais aussi au début, mais il n'y avait plus moyen de l'empêcher.
Quel effet aura sur ses plans, d'après vous, la nouvelle que vous êtes ici ?
« Ah, peut-être l'incitera-t-elle à être prudent, à moins qu'elle ne le pousse à des décisions désespérées dans l'immédiat.
Comme la plupart des criminels intelligents, peut-être sera-t-il trop confiant dans ses moyens et pensera-t-il qu'il nous a complètement roulés. »
« Et pourquoi ne l'arrêterions-nous pas sur le champ ? Mon cher Watson, vous avez l'action dans le sang. Votre instinct vous commande d'être énergique tout de suite. Mais en supposant, pour l'amour de la discussion, que nous l'ayons arrêté cette nuit, en serions-nous pour cela dans une meilleure position ?
Nous ne pourrions rien prouver contre lui.
Et c'est bien là son astuce infernale. S'il agissait par l'intermédiaire d'un être humain, nous pourrions avoir une preuve. Mais si nous exhibions ce gros chien à la lumière du jour, cela ne nous aiderait nullement à enrouler une corde autour de son cou.
Nous avons tout de même un dossier.
Pas l'ombre d'un, uniquement des déductions et des hypothèses. Le tribunal se moquerait de nous.
Ben, il y a la mort de Sir Charles, trouvé mort sans aucune trace de violence.
Vous et moi savons qu'il est mort d'épouvante. Et nous savons aussi ce qu'il a épouvanté.
Mais comment transmettre cette certitude ?
Quelle trace de la présence d'un chien ? Où sont les marques de ses crocs ?
Il nous faut le prouver et nous ne sommes pas en situation de pouvoir le faire.
Mais comment ? Et ce soir ?
Nous ne sommes guère plus avancés. À nouveau, il n'y a aucun rapport direct entre le chien et la mort de Selden. Nous n'avons jamais vu le chien, nous l'avons entendu.
Mais nous ne pouvons pas prouver qu'il était sur la piste du forçat.
Il y a une absence totale de motif.
Non, mon cher ami, nous devons nous faire à l'idée que nous ne disposons d'aucun dossier pour l'instant et que l'affaire vaut néanmoins la peine que nous l'établissions le plus tôt possible.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play.
smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by. Watch the children play, doing things I used to do. They think I'm new. I sit and watch as tears go by.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Et la suite du Chien des Baskerville, après la pause musicale. Je ne pus rien tirer d'autre de Sherlock Holmes. Perdu dans ses pensées, il marcha sans mot dire jusqu'aux grilles de Baskerville Hall.
Vous rentrez avec moi ?
Oui. Je ne vois aucune raison de dissimuler plus longtemps ma présence. Mais un dernier mot, Watson. Ne parlez pas du chien à Sir Henry. Contons-lui la mort de Sheldon en nous inspirant de l'affabulation de Stapleton. Il sera en meilleur équilibre nerveux pour affronter l'épreuve qu'il devra subir demain, puisqu'il est invité, si je me souviens bien de votre rapport, à dîner chez ces gens.
Je suis invité aussi.
Alors vous vous ferez excuser. Il ira seul.
Cela ne souffrira pas de difficultés. Et maintenant, si nous arrivons trop tard pour leur dîner, j'espère qu'un souper nous attend.
Sir Henry témoigna plus de joie que de surprise en voyant Sherlock Holmes. Car depuis quelques jours, il pensait que les récents incidents le décideraient à quitter Londres pour venir ici. Il haussa néanmoins les sourcils quand il aperçut que mon ami n'avait pas de bagages et ne lui fournissait aucune explication sur leur absence. Quand nous fûmes seuls avec lui, nous satisfîmes sa curiosité, jusqu'à la limite dont nous étions convenus. Mais je dus d'abord accomplir la pénible mission d'apporter la nouvelle de la mort de Sheldon à Barrymore et à sa femme. Le maître d'hôtel en éprouva peut-être du soulagement. Mais Madame Barrymore sanglota dans son tablier. Pour le monde entier, il était un homme de violence, mi-démon, mi-animal. Pour elle, il était resté le petit garçon de sa propre enfance, l'enfant qu'elle avait tenu par la main.
Depuis que Watson s'en est allé ce matin, j'ai broyé du noir toute la journée, sans sortir de chez moi, nous dit le baronnet. J'espère que vous serez content, puisque j'ai tenu ma promesse. Si je n'avais pas juré de ne pas me promener seul, j'aurais pu profiter d'une excellente soirée, car j'avais reçu un message de Stapleton me confiant à monter jusque chez lui.
Je ne doute pas que votre soirée n'eût été fort agréable, répondit sèchement Holmes.
À propos, vous rendez-vous compte que nous nous sommes lamentés sur votre cadavre. Nous avions cru que vous vous étiez rompu le cou.
Sir Henry ouvrit de grands yeux.
« Comment cela ?»«
Le pauvre diable portait un costume à vous. Je crains que votre domestique, qui le lui a remis, n'ait des ennuis avec la police. »
Oh, c'est peu probable, je crois me rappeler qu'il ne portait aucune marque.
Il a de la chance. En fait, tous, vous avez de la chance, car vous avez choisi le mauvais côté de la loi en cette affaire. Je ne suis pas sûr qu'en ma qualité de détective consciencieux, mon premier devoir ne soit pas d'arrêter toute la maisonnée. Les rapports de Watson sont des documents suffisants pour vous incriminer.
Mais au sujet de l'affaire, reprit le baronnet.
Avez-vous débrouillé quelque peu cet écheveau ? Je ne crois pas que Watson et moi soyons plus avancés depuis notre arrivée.
Je crois que je serai bientôt en état de tout vous éclaircir.
L'affaire est extrêmement complexe. Il reste plusieurs points sur lesquels nous avons encore besoin d'être éclairés, mais tout de même, nous touchons au but.
Nous avons eu une aventure, comme Watson a dû vous le faire savoir. Nous avons entendu le chien sur la lande. Je puis donc jurer qu'il ne s'agit pas là d'une superstition pure et simple. Quand j'étais en Amérique, j'ai eu à m'occuper de chiens et je sais quand j'en entends un aboyer. Si vous pouvez museler celui-là et l'enchaîner, je suis prêt à jurer que vous êtes le plus grand détective de tous les temps.
Je crois que je le musellerai et que je l'enchaînerai. Si vous me promettez votre concours.
Tout ce que vous me direz de faire, je le ferai, répondit le baronnet.
Très bien. Et je vous demanderai aussi d'agir aveuglément sans me poser de questions.
Non, si vous voulez.
Dans ce cas, je pense que les chances que nous avons de résoudre ce petit problème sont de notre côté. Je ne doute pas.
Il s'arrêta subitement et regarda dans l'air au-dessus de ma tête. La lampe éclairait son visage. On y lisait une telle intensité qu'on aurait pu le prendre pour le buste classique d'une statue de la vigilance.
« Qu'y a-t-il ?»
Je vis, quand il abaissa son regard, qu'il maîtrisait une forte émotion intérieure. Ses traits étaient encore rigides, mais ses yeux brillaient d'une joie amusée.
Pardonnez l'admiration d'un connaisseur, dit-il, en désignant la rangée des portraits qui garnissaient le mur opposé. Watson n'admet pas que je m'y connaisse en art, mais c'est jalousie pure parce que nos opinions diffèrent.
Vous avez vraiment une très belle collection de portraits.
Oh, je suis heureux de vous l'entendre dire, dit Sir Henry, en regardant mon ami avec étonnement.
Je ne prétends pas m'y connaître beaucoup et je serai meilleur juge en chevaux ou en taureaux qu'en tableaux. Je ne savais pas que vous trouviez du temps pour vous intéresser à la peinture.
Oh, je sais ce qui est bon quand je le vois et je le vois maintenant, répondit Holmes.
Voilà, j'en jurerai un Kneller. Cette dame en soie bleue là-bas. Et ce gros gentleman à perruque est un Reynolds.
Ce sont des portraits de famille, je suppose.
Tous. Connaissez-vous leurs noms ?
Barrymore me les a appris, je crois que je sais ma leçon sur le bout du doigt.
Qui est ce gentleman avec le télescope ?
Le vice-amiral Baskerville, qui a servi sous Rodney dans les Indes occidentales. L'homme avec le manteau bleu et le rouleau de papier est Sir William Baskerville, qui a été président des commissions de la Chambre des communes sous Pitt.
Et ce cavalier, en face de moi, celui qui a un costume de velours noir et de la dentelle.
Ah ! Vous avez le droit de faire sa connaissance. C'est lui l'origine de tous nos malheurs. C'est le méchant Hugo qui a engendré le chien de Baskerville.
Ah ! Nous ne sommes pas prêts de l'oublier.
Je regardais le portrait avec intérêt et étonnement.
C'est curieux, murmura Holmes. On le prendrait pour un personnage assez tranquille et de manière douce, si un démon n'allumait pas son regard.
Je me l'étais imaginé plus robuste, plus ruffian.
Oui, mais l'authenticité ne fait aucun doute. Le nom et la date, 1647, figurent derrière la toile.
Holmes se tut. Mais l'image du vieux bandit semblait le fasciner. Pendant notre souper, il ne la quitta pas des yeux. Et ce n'est que plus tard, une fois Sir Henry retiré dans sa chambre, que je fus capable de suivre le fil de ses pensées. Il me ramena dans la salle à manger en tenant à la main une bougie qu'il éleva jusqu'au portrait suspendu au mur.
« Voyez-vous quelque chose ?»
me demanda-t-il. Je regardai le chapeau empanaché, les boucles en accroche-cœur, le col de dentelle blanche et le visage sévère, aquilin, qui l'encadrait. Ce n'était pas un visage brutal, mais il était contracté, dur, ferme, et il avait une bouche bien serrée, aux lèvres minces, deux yeux froids, intolérants.
Ressemble-t-il à un visage que vous connaissez ?
Oh, dans la mâchoire, il y a quelque chose de Sir Henry, répondis-je.
Oui, peut-être, mais attendez un instant.
Il se hissa sur une chaise et tenant la lumière dans sa main gauche, il plia son bras droit par-dessus le grand chapeau et autour des boucles de cheveux.
Mon Dieu ! M'exclamai-je, stupéfait.
Le visage de Stapleton avait émergé de la toile.
Vous le voyez à présent, mes yeux ont été exercés à examiner les visages et non leur accompagnement. La première qualité d'un enquêteur criminel est de pouvoir percer un déguisement.
C'est merveilleux, on dirait son portrait. Oui, c'est un exemple intéressant d'un retour en arrière à la fois physique et moral. L'étude des portraits de famille suffirait à convertir n'importe qui à la doctrine de la réincarnation. Stapleton est un Baskerville, voilà l'évidence. Avec des intentions sur la succession, mais oui. Ce portrait nous procure l'un de nos anneaux manquants. Nous l'avons, Watson, nous le possédons, et j'ose jurer qu'avant demain soir, il volettera dans notre filet comme l'un de ses propres papillons. Une épingle, un bouchon, un carton, et nous l'ajouterons à la collection de Baker Street. Le lendemain, je me levai de bonne heure, mais Holmes m'avait devancé. Je le vis qui remontait l'avenue pendant que je m'habillais.
« Oui, nous devrions avoir une journée bien remplie, me dit-il, en se frottant les mains dans la joie de l'action. Les filets sont tous tendus, la pêche va commencer. »
Avant la fin du jour, nous saurons si nous avons attrapé notre gros brochet à mâchoire tombante ou s'il a glissé entre nos mailles.
Seriez-vous déjà allé sur la lande ?
J'ai adressé de Grimpen un message à Princetown pour informer de la mort de Selden. Je crois pouvoir affirmer que personne ici ne sera ennuyé pour cette affaire. Et j'ai communiqué avec mon fidèle Cartwright, qui serait certainement resté cloué à la porte de ma cabane comme un chien sur le tombeau de son maître si je ne l'avais pas rassuré sur ma santé.
Qu'allons-nous faire ?
D'abord, voir Sir Henry. Ah, le voici.
« Bonjour, Holmes, » dit le baronnet. « Vous ressemblez à un général qui prépare le plan d'une bataille avec son chef d'état-major. »
C'est exactement la situation. Watson était en train de me demander mes ordres.
« Moi aussi ?»«
Parfait. Vous avez promis, je crois, de dîner ce soir avec vos amis Stapleton. »«
Oh, j'espère que vous vous joindrez à nous. Ce sont des gens très hospitaliers et je suis sûr qu'ils seraient très heureux de vous voir. » »«
Non, non, je crains que Watson et moi nous soyons obligés de nous rendre à Londres. »«
À Londres ?»«
Oui, je pense que nous serons plus utiles là-bas dans la conjoncture présente. »
Le nez du baronnet s'allongea. « J'espérais que vous me tiendriez compagnie pendant toute cette affaire. Le manoir et la lande ne sont pas des endroits bien agréables pour un homme seul. »«
Mon cher ami, répondit Holmes, vous devez me faire implicitement confiance et agir exactement comme je vais vous le dire. Vous assurerez vos amis que nous aurions été heureux de nous rendre chez eux avec vous, mais qu'une affaire urgente nous a obligés à rentrer à Londres. » et que nous espérons être très bientôt de retour. Vous vous rappellerez la teneur de ce message ?
Oh, puisque vous le jugez nécessaire, oui.
Je devinais à lire sur les traits du baronnet qu'il était profondément blessé par ce qu'il considérait comme une désertion.
« Quand désirez-vous partir ? S'enquit-il froidement.
Immédiatement après le déjeuner, nous irons en voiture. Mais Watson laisse ici ses affaires en gage qu'il vous reviendra. Watson, vous enverrez un mot à Stapleton pour lui dire que vous regretterez de lui faire faux bond.
J'ai bien envie de partir avec vous, dit le baronnet. Pourquoi resterai-je ici ?
Parce que c'est votre devoir, répondit Holmes. Parce que vous m'avez donné votre parole que vous feriez ce que je vous dis, et je vous dis de rester.
Très bien, je resterai.
Encore une directive. Je voudrais que vous vous fassiez conduire en voiture à Merripit, mais vous renverrez votre break et vous ferez part de votre intention de rentrer à pied.
À pied, à travers la lande ?
Oui, à pied, à travers la lande.
Voilà donc pour ce soir la suite de notre roman Le chien des Baskerville que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.